Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Les Envahisseurs.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. David comprit que l'homme allait le frapper. Il para le cou et lui tordit le poignet pour voir ce qu'il cachait. La douleur fut si vive que Parker ouvrit la main. Et c'était bien ce que David pensait. Le disque était là, brillant, d'un éclat surnaturel, tenu par le doigt difforme des créatures venues d'ailleurs, les envahisseurs. « Vous êtes un des leurs !» s'écria David. D'une secousse, Parker se dégagea. Et d'un coup de pied, il essaya d'atteindre Vincent à l'estomac. Mais celui-ci agrippa la jambe de son adversaire et l'envoya s'affaler sur le plancher. Sans lui laisser le temps de se relever, il se jeta sur lui. Les deux hommes roulèrent sur le sol. Parker essayait d'appliquer le disque sur la nuque de David, qui, d'un coup de manchette, étourdit son adversaire. Haletant, David se releva. Mais l'autre, déjà debout, se ruait sur lui. D'instinct, David prit appui sur le lit et, dans un effort désespéré, d'une détente des deux pieds, il cueillit Parker en plein élan. La poussée fut si violente que, rejeté en arrière, celui-ci bascula sur le rebord de la fenêtre restée ouverte. L'étroite cour intérieure renvoyait en amplifiant son hurlement d'horreur. David se précipita. 7 étages plus bas, disloqué sur le ciment, le corps de Parker s'embrasa rapidement. La silhouette sembla rétrécir, puis la lueur diminua d'intensité. En quelques secondes, tout fut terminé. Il ne restait plus rien du sinistre visiteur. Ce texte est extrait du Barrage de la peur, un roman de Jack Pearl, sorti en 1972 chez Hachette Poche, dans la collection Point Rouge. C'était la traduction d'un des 9 romans basés sur la fameuse série télé des années 60, une série qui reste encore immensément populaire en France, au point d'avoir été mentionné lors du dernier débat des élections présidentielles en 2017.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre
sont
parti.
Sur les réseaux sociaux.
Je parle du parti de l'extrême droite.
Les envahisseurs.
Et oui, les envahisseurs fait partie de notre culture populaire, de notre langage courant. Et la phrase
David Vincent sait que les envahisseurs sont là et qu'ils ont pris une forme humaine. Mais il doit convaincre un monde incrédule qu'un certain cauchemar vient de commencer.
Est connu même de ceux qui n'ont jamais vu la série. Je suis certain que vous la répétiez vous-même tout en l'écoutant. Pourtant, il n'y a bien qu'en France que la série est devenue mythique à ce point. Car dans la plupart des pays du monde, elle est au mieux une série classique, au milieu d'autres, au pire, totalement oublié, sans aucun impact. L'exception culturelle française ? Ben vous ne croyez pas si bien dire. Quand la série Les Envahisseurs commence à être diffusée en France, en septembre 1969, c'est la première, oui vous m'écoutez bien, la première série de science-fiction qui est diffusée en prime time sur le RTF. La première, ni plus ni moins. Alors oui, on avait déjà eu droit à des séries comme Au cœur du temps, Voyage au fond des mers. Mais c'était le dimanche en fin d'après-midi. C'était pas en prime time, c'était pas en soirée. Et on a même eu droit à Commando spatial, les aventures fantastiques du vaisseau spatial Orion, une coproduction allemande et française de 1966, qui vient de sortir, enfin bon, elle vient de sortir chez nous en DVD, et que je vous conseille d'ailleurs chaudement. Mais même coproduite, elle a été diffusée à partir de mars 67, mais très tard en soirée, ni vue ni connue. Et j'ose rappeler la honte, la douloureuse réalité, Star Trek était complètement inédite chez nous. Donc là, quand David Vincent commence à vivre son cauchemar en début de soirée, la série fait l'effet d'une bombe et enflamme l'imagination de plusieurs générations de spectateurs. Le succès est instantané, fulgurant, et propulse la série et son interprète, Roy Thinnes, en couverture des magazines télé de l'époque. Des années et plusieurs rediffusions plus tard, Les Envahisseurs a été une des toutes premières séries à être éditée en vidéocassette, en VHS. Pour l'occasion, et pour en faire la promotion, Roy Thinnes vient à Paris et découvre absolument stupéfait la salle de cinéma du Grand Rex, pleine à craquer de fans qui crient « David, David !» Hébété, incrédule, c'est son tour d'être incrédule, Thinnes racontera souvent le traitement de star qu'il recevait dans ses fréquents passages en France. On le recevait d'ailleurs, à cette occasion inoubliable, et il était sur le plateau d'une des toutes premières émissions de Destination Série. Oh, la série est un excellent souvenir pour moi. Je peux vous le dire maintenant, 25 ans plus tard. Je viens à Paris et tout le monde me reconnaît. On me fait le signe du petit doigt relevé. On m'appelle dans la rue, on m'appelle. Certains m'appellent Roy Thinnes quand même, mais c'est loin d'être le cauchemar que vit le personnage. C'est un vrai plaisir. Cette popularité transgénérationnelle, on peut la mettre sur le fait que la série se voulait très réaliste, contemporaine, terre à terre. Elle ne partait pas à l'assaut des galaxies, terrain beaucoup plus segmentant pour le grand public. Une seule fois, dans l'épisode « L'innocent », David Vincent fait un voyage en soucoupe volante dans la soucoupe des envahisseurs en direction de leur planète d'origine, qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre à notre Terre. Et David y retrouve d'anciens amis à lui et même un amour de jeunesse. Mais en réalité, tout cela n'était qu'une hallucination. Mais le résultat est là, Vincent, on y croit. L'autre élément, c'est justement que personne ne veut le croire. Cette position de victime, de lanceur d'alerte ignoré, moqué par tous, mis au banc de la société, seul contre tous, bref, lui, c'est la victime expiatoire de notre ignorance. Le troisième élément, c'est la paranoïa qui baigne dans toute la série. Lui, il voit des envahisseurs partout. Ils sont potentiellement partout, la secrétaire, l'ami, le mari, le conseiller politique, le policier, ce sont tous, peut-être, des envahisseurs extraterrestres infiltrés parmi nous. C'est par exemple le cas dans l'épisode « L'astronaute ». Vincent tente de persuader la femme d'un astronaute que son mari n'est plus son mari, mais c'est un envahisseur qui a pris sa place dans la vie et dans son lit, avec des changements subtils de comportement. Il va même parvenir à semer le doute chez la jeune femme, au point qu'elle dénonce son propre mari. Le producteur de la série, Alan Armour, pensait d'ailleurs que c'était l'élément crucial qui contribuait à faire de la série autre chose qu'un simple drame avec des tonalités de science-fiction. Il disait d'ailleurs « La chose la plus importante de la série, c'est le fait que nous sommes tous un peu paranoïaques. Il est donc facile de s'identifier avec un seul homme contre le monde entier. Si vous observez les grands mythes, les grandes légendes, fréquemment il s'agit d'une personne qui se bat contre la société, le gouvernement, une force invisible, et c'est un but très difficile à atteindre. » Le créateur de la série Les Envahisseurs, c'est un cinéaste connu et vénéré par tous les amateurs de films fantastiques ou d'horreur, teintés d'humour et de cynisme, Larry Cohen. Sa création la plus connue, c'est Le Monstre est vivant, It's Alive, en 1974, et un film qui connut de suite. Il a aussi été scénariste, autant pour des épisodes de Columbo que pour des films à suspense, comme le Phone Game de Joel Schumacher ou le célèbre Maniac Cop de William Lustig. Au moment où il crée Les Envahisseurs, il a déjà une solide réputation de créateur de séries télé. Le Proscrit, ce western hors norme, où Chuck Connors incarne l'unique survivant de la bataille de Bitter Creek, qui est passé en cour martiale, dégradé, chassé de l'armée, et se traîne maintenant dans l'Ouest avec la réputation d'être un couard, eh ben c'est lui. Qualifié de western extrêmement désabusé, rugueux et très décalé, le Proscrit, Branded, a mis en place la légende de Larry Cohen au sein de l'univers de la télévision. C'est Larry Cohen qui va mélanger la thématique des ovnis, qui était très à la mode dans les années 60, avec le style horrifique des petits budgets qu'il sait faire, et l'invasion des profanateurs de sépultures, le grand classique du cinéma de Don Siegel, retraçant l'invasion insidieuse de créatures extraterrestres prenant la place des humains dans leurs enveloppes humaines. Il raconte aussi qu'il a été très influencé par des films d'Hitchcock tels que La mort aux trousses, avec son personnage pourchassé, détenteur d'une vérité que personne n'entend, car il n'en détient aucune preuve. Larry Cohen raconte d'ailleurs la formule qu'a appliquée Hitchcock pour plusieurs de ses films, comme Saboteur ou Les 39 marches, c'est celle du héros qui est le seul qui connaît les espions et leurs plans que personne ne croit. Et quand il amène la police sur les lieux, tout a disparu. Cette formule entraîne un suspense intense et une identification avec le héros qui est un incompris. Accompagné du producteur Alan Armour, Larry Cohen va donc pitcher son idée d'invasion silencieuse et insidieuse par des extraterrestres et de l'homme qui découvre cette invasion mais ne parvient ni à l'arrêter ni à convaincre les autres qu'elle existe bel et bien. Sa série aura clairement pour but de faire peur, de terrifier le public et sera destinée à une diffusion plus tardive en fin de soirée. Indécelable, les envahisseurs extraterrestres avaient par contre un troisième œil dissimulé dans la paume de la main. De plus, comme c'était devenu un peu la mode, il s'agirait d'un feuilleton. Un feuilleton diffusé au moins deux fois par semaine dans des épisodes d'une demi-heure. Donc une série vraiment à suivre. Parce que c'était déjà le cas avec Peyton Place, diffusé en soirée mais par tranche de deux ou trois épisodes par semaine. Avec le docteur Kildare aussi, lors de cette dernière saison. Et ensuite, ça a été le cas avec Batman, qui était en deux parties chaque semaine. ABC se révèle extrêmement accroché par l'idée et finance donc le lancement du projet. Cohen va donc écrire le pilote sur la base d'un format d'une demi-heure et les scénarios des épisodes suivants pour toute la première saison. En 1966, il en a déjà 22 terminés alors qu'on ne lui en a commissionné que 15. C'est alors que surgit dans l'histoire un producteur mythique de l'histoire de la télévision, Quinn Martin. Alors vous ne pouvez pas l'ignorer, il est nommément cité dans tous les génériques de ses propres séries.
Et Quinn Martin Production.
Martin était un de ces méga-producteurs de la télévision américaine de l'époque, l'ancêtre des Sean Ryan, des Shonda Rhimes et des Greg Berlanti que l'on connaît maintenant. Quinn Martin, eh bien c'est lui qui a produit Les Incorruptibles, FBI, Les Rues de San Francisco, Cannon, Barnaby Jones, un nombre considérable de séries, toutes tournées avec beaucoup de soin et souvent en extérieur pour donner une production extrêmement propre, extrêmement léchée. Bon, tout ça sans trop d'innovation, mais très carré. Les réalisateurs qui travaillaient pour les séries de Quinn Martin étaient payés plus cher que les autres. Ces séries mettaient systématiquement en valeur les vedettes, qui étaient donc très bien traitées, autant les vedettes régulières de la série que les guest stars, qui étaient d'ailleurs cités dès le générique début.
The guest stars in tonight's story: Jack Lord, Alfred Ryder, and special guest star Diana Hyland.
Et d'ailleurs, ces guest stars étaient toutes payées bien plus cher que chez les autres producteurs télé. Tout cela contribue à faire de Quinn Martin un incontournable de la télévision. Mais mieux que cela, deux ans avant, il vient de littéralement casser la baraque avec Le Fugitif. La série, créée par Roy Huggins et produite par Quinn Martin, après un démarrage assez discret, fait un véritable carton en 1965 avec 15 millions de spectateurs happés par la fuite du tragique docteur Richard Kimble. La formule, qui mêle à la fois série dramatique anthologique avec de nouveaux personnages à chaque épisode et le fil rouge du personnage qui fuit de ville en ville, cette formule s'avère payante et sera d'ailleurs utilisée de nombreuses fois par la suite. Mais là, Le Fugitif commence à perdre de sa superbe et la saison 66-67 sera sa dernière. Alors, on va confier à Quinn Martin le soin de produire la série de Larry Cohen en espérant faire un Fugitif 2. D'ailleurs, on va très intelligemment la positionner dans la grille le même soir, mais une heure et demie avant, un peu plus tôt, parce que une histoire comme celle de David Vincent va forcément attirer les jeunes amateurs de science-fiction, d'aliens et de rayons laser. Pour se rapprocher donc du style du Fugitif qui avait si bien marché, Quinn Martin, avec l'accord de la chaîne ABC, va abandonner le format feuilletonnant, le format bi-hebdomadaire et le format 30 minutes. Bouf, tout ça, poubelle. Larry Cohen va donc abandonner la série, parce qu'elle s'éloigne de plus en plus de ce qu'il avait conçu. Mais Quinn Martin va pourtant utiliser les scénarios qu'il a déjà écrits. Cohen raconte que, après quelques séances de travail avec Quinn Martin, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune possibilité qu'on puisse s'entendre, lui et moi, et qu'il valait mieux en finir et le plus rapidement possible. Cohen s'en va, non sans une participation au profit de la série qui allait très nettement en sa faveur. Maintenant sur l'enseigne, Quinn Martin va sélectionner l'équivalent de David Janssen, son fugitif, son héros solitaire au regard de chien battu, la victime, non pas d'une justice aveugle, comme dans Le Fugitif, mais de la machination extraterrestre. sont lanceurs d'alerte, donc, comme on dirait de nos jours. La saison précédente, une série dramatique avait attiré son attention, avec son jeune héros, Ben Cui, qui s'oppose aux machinations d'un riche propriétaire d'une petite ville du Sud. La série était inspirée de l'œuvre de William Faulkner et avait pour titre « The Long Hot Summer ». D'ailleurs, il y avait un film qui avait déjà été produit avec le même scénario, « Les Feux de l'été » en 1958, avec Paul Newman dans le rôle de Ben Cui. Ici, le successeur de Paul Newman, Ben Cui, c'était un certain Roy Thinnes. Il avait déjà passé 2 saisons dans le soap-opéra quotidien General Hospital et était devenu enfin une vedette de prime time. The Long Hot Summer, bon, ne dépassa pas une seule saison. La série a même eu droit à un remake en mini-série en 1985 avec Don Johnson, toujours dans le rôle de Ben Cui, comme quoi c'est quand même un personnage qui attire les grandes stars. Mais Thinnes va embarquer dans la nouvelle production ambitieuse de Quinn Martin. Il est d'ailleurs déjà apparu dans Les Incorruptibles, dans The FBI, dans d'autres séries du même producteur. Il y campe là David Vincent, un David Vincent habité, souvent perçu comme arrogant, un peu hostile, à l'opposé des héros de séries qui sont habituellement très gentils et empathiques. Vincent doit sauver le monde et il ne prend pas de gants pour arriver à ses fins. Le personnage que j'interprétais dans The Long Hot Summer était lui aussi un solitaire. Ben Cui. Et il n'avait pas d'amis. Ça a peut-être influencé Quinn Martin pour me choisir pour cette série. La plupart des séries de science-fiction qui étaient faites pour la télévision, jusqu'alors, étaient plutôt avec des aspects amusants et comiques. Il était difficile d'y croire. Moi, j'avais toujours tenu des rôles très réalistes. Et je tenais à en faire de même avec ce personnage qui a ce problème. Il a vu les envahisseurs et personne ne le croit. L'épisode pilote des envahisseurs est réalisé par Joseph Sargent. Et comme vous le savez sans doute, les réalisateurs de pilotes sont des gens assez importants, plus que les autres, parce qu'ils définissent tout le style visuel des futurs épisodes. Joseph Sargent a tourné un nombre considérable de téléfilms et d'épisodes, des agents très spéciaux, de Star Trek, de l'Immortel, de Gunsmoke. Il est aussi le réalisateur du téléfilm La Nuit qui terrifia l'Amérique, un téléfilm qui retrace la production de la dramatique d'Orson Welles, qui adaptait Les Guerres des Mondes de H.G. Wells. Et au cinéma, il est le réalisateur d'un petit classique, Le Cerveau d'Acier, Colossus The Forbidden Project, où un super ordinateur est érigé pour contrôler la force de frappe américaine au Pentagone. Le pilote est tourné en mars 1966, en Arizona. Il fait 75 minutes, et donc il doit être remonté et réduit d'un peu plus de 20 minutes pour sa diffusion sur la chaîne de télévision. Encore de nos jours, il conserve sans peine son suspense, son efficacité, et définit très vite non seulement la menace implacable que sont les envahisseurs, mais aussi la désillusion et la solitude que David Vincent va se traîner tout au long de la série. La série est validée en juillet et rentre donc en production en octobre de la même année, car son lancement est prévu pour un peu plus tard.
The discovery of alien creatures taking life from our planet has shaped his destiny. There will be no rest for David Vincent until he can prove to the world that an invasion has begun, an invasion that must be stopped.
Stop a minute. I need your help.
Sure thing. Climb in, Mr. Vincent.
Watch the invaders every week in color on ABC.
La série démarre en milieu de saison 1966-67, le 10 janvier 1967. Elle va clairement séduire le public américain, même si ce succès sera quand même de courte durée. Comme le dit le générique, comme le constate David Vincent, dès sa toute première rencontre avec ces êtres étranges venus d'une autre planète, les envahisseurs ont pris forme humaine, ce qui signifie que ce n'est pas leur forme d'origine. Celle-ci sera évoquée à plusieurs occasions, tout spécialement dans un épisode qui s'appelle The Enemy, où un envahisseur reprend très lentement sa forme originelle et que l'on entrevoit à toute fin de l'épisode. Sauf que nous ne sommes pas encore dans une mythologie cohérente, parfaitement construite, et on voit aussi à d'autres moments dans la série d'autres illustrations de la véritable apparence des envahisseurs. Quelquefois, c'est même une espèce de masse informe dans un épisode comme la Genèse. Dans le tout premier épisode, au moment où le campeur mystérieux s'apprête à tuer David Vincent avec une pierre, sa transformation commence. Son visage se met à devenir incandescent lors d'une scène tellement traumatisante qu'elle fut d'ailleurs raccourcie dans sa diffusion à la télévision française. « Et dans le pilote original, ses yeux deviennent aussi lumineux. Bon, c'est un effet qui est abandonné par la suite. Pour garder leur apparence, les envahisseurs doivent régulièrement se régénérer grâce à des tubes de régénération. Les envahisseurs ne saignent pas, ils n'ont pas de battement de cœur et certains d'entre eux ont une difformité de l'auriculaire, ce que l'on a appelé le petit doigt levé. Mais certains uniquement, pas tous, hein. C'est donc pas une façon systématique de repérer un envahisseur. La grande majorité des envahisseurs n'ont pas d'émotion non plus. Ils sont donc d'une froideur extrême. Mais, presque à la fin de la série, un duo d'envahisseurs nous révèle que tous ne sont pas convaincus de la nécessité d'envahir la Terre et qu'il y a même une forte opposition sur leur propre planète, une allégorie un peu poussée à la guerre du Vietnam. Enfin, dès le troisième épisode de la série, La Mutation, on découvre une autre spécificité des envahisseurs, qui est faite pour que David Vincent ne puisse jamais prouver ses allégations, donc pour que le concept de la série puisse se poursuivre tranquillement. Mortellement blessés, les envahisseurs se désintègrent purement et simplement. Ils ne laissent donc aucune trace, rien que des cendres. Pour envahir notre planète, les envahisseurs disposent de leur soucoupe volante. Bon, en fait, dans la réalité, il y avait uniquement le bas de la soucoupe qui était construit en taille humaine. Le haut, c'était une maquette qui était incrustée à l'image. D'ailleurs, à propos de soucoupe, au début de la saison 2, ça a été un des éléments promotionnels importants, David Vincent a l'opportunité de monter à l'intérieur d'une des soucoupes. Les envahisseurs disposent aussi de fusils et d'armes de poing à rayons incandescents, ainsi que d'un petit disque en métal qui sert à la fois de téléphone pour contacter les autres aliens, mais aussi de machine à arrêter le cœur chez ceux sur qui il est appliqué. Pour tout le monde, les victimes des envahisseurs sont simplement décédées d'une crise cardiaque. Et pourquoi donc les envahisseurs veulent-ils nous envahir ? Là aussi, la mythologie de la série n'est pas très cohérente, parce que personne, ni même Larry Cohen, n'a réellement trouvé la cause de l'invasion des extraterrestres. C'est en fait dans le générique début que le scénariste Anthony Spinner définit la motivation des envahisseurs.
Les envahisseurs, des êtres inconnus venus d'une planète en train de mourir.
Ça a été inventé à ce moment-là. Initialement, les envahisseurs sont donc à la recherche d'un nouveau monde où survivre, le leur étant presque mort, ce qui laisse toute une zone d'ombre, une zone assez subtile pour des valeurs morales à explorer. Ce sera d'ailleurs le cas dans un des épisodes, La recherche de la paix, où les envahisseurs s'évertuent à nous faire passer, nous, terriens, contre de belliqueux agresseurs. Dans une interview, Alan Armour, le producteur, reconnaît que, graduellement, les aliens devinrent de détestables monstres tout droit issus des bandes dessinées. Et David Vincent ? Eh bien lui, l'acteur Roy Thinnes, il était payé 7 500 $ par semaine, donc par épisode, pour tenir le rôle de David Vincent. Il nous a raconté, lors de sa venue en France, les conditions du tournage. À cause des nombreux tournages en extérieur, nous travaillons beaucoup. Et pendant de très longs trajets en bus, Andrew McIntyre nous parlait de ses contacts avec les ovnis. Quand on arrivait au jeudi, on perdait un peu la notion du temps, parce qu'on travaillait entre 15 et 18 heures par jour. Quand le week-end approchait, on se bousculait les uns les autres à cause de la fatigue. Mais le résultat final en valait la peine. Roy Thinnes avait bien sûr une doublure, le figurant Randy Crawford, qui apparaissait aussi d'ailleurs dans des petits rôles dans la série. L'un des envahisseurs aux commandes de la soucoupe volante dans le générique du début de la série, c'est la doublure de Roy Thinnes. Et puis, il y a un autre élément de la série, c'est sa musique. Sauf qu'assez curieusement, elle ne provient pas spécifiquement des envahisseurs. Appelé pour composer la musique du pilote, le compositeur Dominique Frontière avait déjà l'habitude de travailler pour Queen Martin, avec les musiques des premières séries de sa maison de production, The New Breed et 12 O'Clock High. Il travaille aussi sur The FBI, mais à la même époque, il avait aussi la musique de très nombreux épisodes de la série de science-fiction Au-delà du réel. Et l'un des épisodes Au-delà du réel, pour lequel il a composé la musique, fut isolé du reste de la série et remonté pour devenir le pilote d'une potentielle nouvelle série à suspense, The Unknown. Et si on écoute attentivement la musique de ce pilote The Unknown, on entend ça. Thank you. très clair. Pour assembler rapidement la musique du pilote des envahisseurs, Dominique Frontière a ni plus ni moins que récupéré la musique de ce pilote et s'en est servi comme base. Il compose ensuite des partitions originales, bien sûr, quand la série est définitivement lancée. Mais il gardera ce motif musical sur trois notes qu'il avait donc déjà composées et qui s'avèrent très efficaces. Bon, pas de chance quand même, il claqua ensuite la porte de la série parce que la version originale de la musique de fin qu'il avait composée entraîna un sérieux souci de responsabilité au sein de la production. La musique fut rejetée après un seul épisode. Écoutez d'ailleurs ce qu'il avait conçu comme musique de fin originale. D'autres compositeurs ont ensuite travaillé sur la série, comme Richard Markowitz. Et d'ailleurs, un double CD vient d'être édité aux États-Unis avec les bandes musicales originales conservées par la Film Music Society. Moi, je vous le recommande parce que c'est de ce CD que sont extraites toutes les musiques de ce podcast. À la fin de l'été 67, juste avant le traditionnel lancement de la nouvelle saison, et donc de la seconde saison des Envahisseurs, Le Fugitif, sa série mère en quelque sorte, se conclut avec un double épisode qui résout l'énigme du meurtre de la femme de Richard Kimball, met donc fin à la fuite du fugitif. Cette conclusion deviendra d'ailleurs l'épisode le plus regardé de toute l'histoire de la télévision de l'époque, 78 millions de téléspectateurs. Et il n'y avait même pas de replay. La saison 2 des Envahisseurs, qui commence quelques jours plus tard, a donc un boulevard devant elle. Eh ben non. Son audience est très respectable initialement, mais les analyses montrent que les téléspectateurs de plus de 50 ans la quittent par centaines chaque semaine. On va donc mettre un terme aux menaces fantastiques, aux procédés surnaturels utilisés par les envahisseurs, tels les tornades artificielles ou les insectes mangeurs de chair humaine. Ouais, parce qu'il y a eu un épisode dans lequel il y avait des insectes qui bouffaient la chair humaine. La seconde saison de la série, sous la houlette d'un nouveau producteur associé, David Rintels, un homme qui a déjà remporté 3 Emmy Awards pour ses scénarios progressistes, sera la digne successeur du Fugitif, la plus réaliste possible. La religion, par exemple, devient un nouveau moyen pour les envahisseurs pour assurer leur domination. Ils tenteront de déclencher un conflit nucléaire. Ils dresseront les gens les uns contre les autres, utilisant la crainte des autres, le racisme, le conflit du Vietnam, par exemple. De plus en plus, sous la houlette de ce nouveau producteur, les épisodes deviennent de véritables petites allégories. Et même le producteur Quinn Martin reconnaît humblement qu'il est bien plus à l'aise dans ce genre d'histoire dramatique que dans les histoires de science-fiction qu'il ne comprenait de toute façon pas. Cependant, pour redonner un nouveau sens à la série, vers le milieu de cette saison 2, les scénaristes vont créer un groupe de soutien à David Vincent. Non, pas les fans, hein. Dans la série, les défenseurs, convaincus, ils allient leurs forces, leurs moyens financiers et leurs connaissances pour aider David Vincent dans sa lutte et faire qu'il ne soit plus seul. Ken Smith joue alors le seul personnage régulier de la série, Edgar Scoville, en plus de David Vincent, bien sûr. Et petit à petit, de plus en plus, des gens apprennent l'existence de cette invasion. Enfin, on a longtemps donné à la série une signification politique. Le créateur, Larry Cohen, s'est depuis exprimé sur le sens qui se dissimulait derrière ses scénarios et qu'il injectait dans la série. « C'était ma façon de parler de la paranoïa sur le communisme dans l'industrie du cinéma, qui venait tout juste de prendre fin. » Donc, on est véritablement dans les espions communistes infiltrés dans la société américaine, comme des décennies plus tard le fera la série The Americans. Dans un épisode, Le Rideau de Lierre, on découvre même une école où les envahisseurs apprennent à comprendre et à reproduire le comportement humain. Si ça, c'est pas un lien avec les communistes infiltrés aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il vous faut. David Vincent serait donc, lui, un enquêteur anticommuniste. Et pour aller encore plus loin dans le thème de la communauté invisible qui doit se cacher parmi les autres, pour Larry Cohen, le petit doigt raide, en fait, c'est le symbole de l'homme efféminé qui appartient à une communauté homosexuelle qui doit vivre dissimulée aux yeux des autres. On a ici des aliens vivant au cœur de notre société qui gardent leur identité et leur vraie personnalité secrète et personne n'a relevé le gag et la référence du petit doigt et de ce qu'il symbolise, a-t-il raconté dans une interview. Mais l'audience plonge. La série qui faisait autrefois un carton ne séduit plus le spectateur. La chaîne ABC ne la renouvelle pas pour une troisième saison. Roy Thinnes nous parlait de cet arrêt brutal et inattendu sans que le moindre épisode de conclusion ne fût tourné. Je n'ai aucune idée de la raison de l'arrêt de la série. J'ai découvert cela alors que nous étions en vacances. Nous avions fini la saison et j'avais 2 mois de congé pour réfléchir à de nouveaux projets et me reposer. Les scénaristes travaillaient déjà sur les scénarios des épisodes de la prochaine saison. Et un matin, dans Variety, j'ai vu un article comme quoi 3 ou 4 séries s'arrêtaient. Et c'était toutes des séries de Quinn Martin. J'ai appelé Quinn Martin, je lui ai demandé si ce que j'avais lu dans Variety était vrai, et il me l'a confirmé. Les envahisseurs, ben c'est fini? Pas tout à fait, parce que les envahisseurs ne sont pas oubliés. En 1977, Quinn Martin produisit une anthologie d'histoires surnaturelles, un peu comme la quatrième dimension. Ça s'appelait Tale of the Unexpected, et on l'a vu en France sous le titre de Voyage dans l'inconnu. Cette série ne dura que 8 épisodes, mais on retrouve Roy Thinnes dans le premier d'entre eux, et surtout un autre épisode, Les Nomades, avec David Burney, est ni plus ni moins qu'un remake du premier épisode des Envahisseurs. Roublard, Quinn Martin a carrément repris le script. En 1985, Roy Thinnes obtient le feu vert de la chaîne ABC pour une nouvelle version des Envahisseurs, dont il serait maintenant le producteur. Voilà ce qu'il m'en disait en 1996 au Festival de télévision de Monte-Carlo. Vous vous souvenez qu'il y a 10 ans, j'ai vendu à ABC l'idée de faire un remake. C'était avec la bénédiction de ceux qui possèdent les droits de la série. Ce fut une longue histoire, et pour plusieurs raisons, la série ne s'est jamais faite. Et puis, il y a eu des gens en France qui étaient intéressés par l'investissement dans des films Les Envahisseurs. Mais les personnes qui ont les droits n'ont pas voulu donner suite à ce projet car ils avaient d'autres opportunités. Bref, ça a pris une éternité. En 1995, en pleine vague des X-Files, et alors que cette série va rendre un hommage appuyé aux Envahisseurs en choisissant Roy Thinnes pour incarner un extraterrestre guérisseur, Jeremiah Smith, on produit une mini-série en 2 téléfilms, The Invaders, avec Scott Bakula, et Roy Thinnes y fait une très courte apparition. Il passe littéralement le flambeau à ce nouveau personnage. C'est un téléfilm qui s'éloigne quand même radicalement des concepts mis en place dans la série. Cette nouvelle version a mis pratiquement 2 ans à être écrite. C'était un processus de développement très très long. Et vous pouvez nous expliquer de quelle façon vous êtes impliqué dans cette mini-série ? Ça paraît un peu étrange parce que ce sont des fans qui ont réclamé votre présence. Il y avait une incertitude sur la présence de David Vincent, le personnage que je joue. Les fans ont eu vent, car cela avait été annoncé dans un magazine. Ils ont écrit aux diffuseurs et aux producteurs. Et les producteurs se sont dit que donc, il valait peut-être mieux me réintégrer David Vincent dans la mini-série. Je pense qu'ils voulaient même laisser tomber le personnage. Je suis content qu'au final, ils l'aient gardé. Bien qu'il n'ait pas développé ce qui lui était arrivé en 28 ans, il apparaît au milieu de nulle part. Il explique au personnage joué par Scott Bakula ce que les aliens lui ont fait et quelles sont leurs méthodes. Vincent est plus âgé, plus sage, il marche un peu plus lentement, mais il est encore sur la brèche et il tente de découvrir où sont les envahisseurs. Quand le tournage a approché, ils m'ont donc contacté et m'ont demandé si je voulais en faire partie. J'ai eu le script. Là, je ne savais pas, quoi. Vincent apparaît très brièvement dans un téléfilm de 4 heures. Ce fut un dilemme. J'y vais ou pas ? Mais les fans ont été tellement opiniâtres dans leur volonté d'avoir David Vincent dans cette nouvelle mini-série que j'ai décidé de dire oui. Et je suis content de l'avoir fait. Parce que l'idée est toujours là pour de futures séries ou des films. Roy Thinnes ne s'est jamais enfermé dans le personnage de David Vincent. En tant que comédien, on l'a vu dans de nombreuses séries de New York Unité Spéciale à Oz, en passant même par Les Sopranos. ainsi que la nouvelle et ambitieuse version de Dark Shadows, où il tenait le rôle de Roger Collins et de son ancêtre, le révérend Trask, face à Barnabas Collins, le vampire. Et au cinéma, il était dans 747 en péril, et c'était la vedette d'un film de science-fiction que vous pourrez redécouvrir actuellement, parce qu'il vient d'être édité en Blu-ray. Le film s'appelle Doppelganger, ou en français, Danger, planète inconnue. Il est de Robert Parrish. Si je vous le mentionne, c'est parce qu'il y a un lien avec d'autres séries télé dans ce film. C'est un long-métrage produit par Jerry et Sylvia Anderson, le duo qui a créé UFO, Thunderbirds et Cosmos 1999. Mais déjà, à l'époque de cette très banale mini-série « Les envahisseurs sont de retour », Roy Thinnes avait des idées très arrêtées et très intéressantes sur son personnage de David Vincent. Voici un homme, seul, qui tente de dire au gouvernement, aux autorités, à la police, à l'éducation, qu'ils sont infiltrés par des êtres extraterrestres et qu'ils sont là pour nous conquérir. Et il ne peut convaincre personne. On comprend tous que nous avons aussi cette même paranoïa. Comment peut-on convaincre les autres que ce que j'ai vu est vrai? Là, il s'est passé 28 ans. Avec le même personnage. On devrait explorer ce qui s'est passé pour lui en 28 années. Pourquoi n'a-t-il pas progressé en 28 ans? S'il a perdu la raison ou s'il a connu des succès, ben pas, parlons-en. Il y a des histoires intéressantes. Et c'est d'ailleurs le sujet de la série d'origine. Comment Vincent a progressé dans sa mission qui consiste à avertir l'humanité tout entière. Ça, c'est un bon concept. Mais oui, il y a une pléiade d'histoires à raconter en 28 ans de vie totalement dédiée à une cause. C'était un bon architecte, sans pour autant être une célébrité. Mais il travaillait bien. Un homme comme les autres, qui a survécu 28 années. Comment y est-il parvenu? Que lui est-il arrivé? Qu'a-t-il vécu? Ignorer tout cela, ça me paraît un peu étrange.
Strange, I'd say.
Sandra lui saisit le bras. J'ai peur, David, c'est terrifiant de penser qu'on ne sait jamais qui ils sont. Au restaurant, votre voisin est peut-être l'un d'eux. Elle lança un coup d'œil nerveux vers la porte et ajouta plus bas, et les gens qu'on emploie, ce sont peut-être des envahisseurs. David, dites-moi, il reste un espoir, n'est-ce pas? Ils ne gagneront pas? Si, jeta-t-il brutalement, ils gagneront. À moins que, sur Terre, les gens ne se décident à ouvrir les yeux. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.